Mardi 22 mai 2012, bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30. En cette troisième émission dans le cadre de la Manif d'art, on vous propose, comme par les semaines passées, des rediffusions d'entrevues qu'on a jugées particulièrement bonnes ou qui nous ont plu de manière plus intense. Donc, des entrevues qui ont été réalisées dans le cadre de l'émission en direct de la Manif qui est diffusée les samedis de 11h à 13h à partir de l'espace 400e. Aujourd'hui, on réécoutera l'entrevue qu'on a faite avec Nicolas Dion du duo Mini-Bloc qui nous présentait Courant d'air et Vidéo Test Cassette 2 à l'œil de poisson. On écoutera aussi l'entrevue que j'avais faite avec Jérôme Minière et Marie-Pierre Normand qui réalise avec Jean-François Dugas le laboratoire de la vie en boîte qui est présenté à la bande vidéo. Également, on aura l'occasion de reparler avec François Mathieu au sujet de son exposition de l'air et du plomb qui est présentée au Musée national des beaux-arts du Québec. Raymond Poirier nous fait sa revue de presse. Bonjour Raymond.
Bonjour Julie.
Ça va bien?
Ça va très bien.
De quoi? T'en as une carotte, là, un petit sujet comme
on
ça?
On va parler de sexe.
Oh!
Au musée.
OK. Ouais, c'est intriguant. T'as vraiment trouvé le sujet par excellence pour attirer notre attention.
Et en plus, je te dirais qu'il y a les conservateurs aussi là-dedans. Donc ça complète le portrait.
Wow, sexe et conservateur. Ma foi, fort étrange. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. En attendant, j'accueille Simon Roy. Bonjour.
Bonjour Julie.
Ça va bien?
Ben oui, je me suis ennuyé de vous autres samedi pour l'émission spéciale La Manif d'art. Ça m'a manqué.
Ah oui, mais t'avais quand même une bonne raison, là. T'étais à Victoriaville?
Ben oui, c'est ça. J'ai été au FIMAV. J'ai fait les 4 jours, donc des allers-retours Québec-Victoriaville, près de 1000 kilomètres en 4 jours. Donc,
ah ouais,
une grosse fin de semaine.
Tu travaillais aussi en même temps, j'imagine?
Oui, en plus.
Ben, peux-tu nous en parler un peu de ce que tu as vu là-bas? Parce qu'il y a une série d'installations dont le commissariat est fait par Éric Dorion.
Ben oui, c'est ça, Éric Dorion, qui a déjà été collaborateur à l'aérospatiale, un artiste en art audio de la ville de Québec de renommée mondiale. Donc, c'est lui qui a été choisi pour être le commissaire des installations. Ce qui était le fun cette année, c'est que les installations, donc, c'est situé dans le parc qui longe la rue Bigarry, donc à Victoriaville. C'est différents lieux. Donc, cette année, la particularité, c'est qu'on pouvait toucher aux installations.
Ah ouais.
On devenait comme... On faisait notre propre musique. Ça débutait dans la bibliothèque. L'œuvre de Chantal Dumas, Le vivant bruit du corps. Vraiment le fun. J'étais avec un ami. Donc, l'installation, c'est simplement deux vieilles chaises en bois qui craquent, montées sur roulettes. Il y a un fil qui... Donc, qui est installé sur ces chaises-là. Puis, les bénévoles du FIMAV sont juste là pour surveiller, ils ne nous donnent pas d'instructions. Donc, c'est à nous d'expérimenter qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, en déplaçant les chaises, ça faisait partir des boucles d'échantillonnage. Puis, ça modifiait la musique aussi selon l'angle, puis tout ça. Donc, on passait un bon moment à m'amuser avec les chaises. C'était vraiment le fun.
Mais c'est ça, il y a un côté vraiment ludique là-dedans, là.
Ben oui, puis c'est la façon, la salle est fermée, il y a des haut-parleurs tout le tour de nous autres, donc il a fallu que je cède ma place parce que
ça restait plus longtemps
avec son installation.
Ah, c'est bon ça. À part ça, je pense qu'il y avait les deux Mathieu là, qui exposent aussi à Zara en ce moment.
Oui, Mathieu Gauthier puis Mathieu Fecteau, c'était vraiment, j'ai vraiment aimé leur sculpture audio, faite avec des matériaux recyclés dans la région de Victoriaville. Il y avait une espèce de grosse installation, comme un cocon en bois un peu. Il y avait des moteurs qui étaient un peu partout, puis on pouvait peser sur des boutons, donc ça faisait vibrer la structure. On se trouve au centre de la structure. C'était vraiment intéressant comme expérience. Il y avait une autre machine qu'on pouvait actionner, donc c'était toujours à l'aide de boutons. Il y avait comme un petit cheval pour enfants pour sauter, comme avec des ressorts. Il y avait des haut-parleurs dessus. De l'autre côté, il y avait toutes sortes de vieilles bassines rouillées. Donc, ça faisait passer de la musique dans différents haut-parleurs de différentes grosseurs, puis ça passait au travers des objets. Donc, c'était vraiment drôle. On pesait sur les boutons, puis ça faisait de la musique. Puis, il y avait l'installation aussi de Jean-Pierre Gauthier qu'on a eu en entrevue pour les émissions spéciales de la Manif d'art. L'œuvre à Jean-Pierre, je l'ai adorée. C'était des genres de structures, voyons comme en tuyau, donc un peu de torsadé. Puis il y avait une corde, un fil de métal au centre. Donc, sur le fil de métal, il y avait un archet qui était actionné de façon automatique ou programmée, puis différents moteurs aussi, donc, qui interagissaient avec ce fil-là. Donc, ça faisait des bruits, mon Dieu, d'outre-tombe. Les gens aussi, en circulant autour de l'œuf, ça faisait des vibrations, donc ça faisait changer le... comme les sons que ça produisait. On pouvait se promener, c'était jamais pareil, donc c'était une installation vraiment ingénieuse.
Ah, c'est ça, Jean-Pierre Gauthier, justement, disait que dans ses installations, il aime beaucoup utiliser le spectateur comme à son insu, que ce déplacement soit utilisé dans ses œuvres. Ben là, ça devait être le cas de manière peut-être un peu plus flagrante, au final.
C'est ça, on le découvre un peu par la suite en essayant de comprendre qu'est-ce que c'est que ces structures-là, puis on se rend compte que nos pas finissent par activer la machine parce qu'ils sont comme suspendus au plafond et au sol, donc toutes les vibrations qui passent se sont réverbérées dans l'installation. J'ai trouvé ça vraiment une bonne idée.
Puis sinon,
il y avait aussi Alexandre Burton avec son installation Barboton. C'était tout simplement trois drums avec de l'eau à la place des pots. Puis on avait juste à toucher délicatement l'eau, puis ça faisait partir des instruments. Donc on pouvait en jouer seul, mais s'il y a deux autres personnes qui se joignaient, ben les fonctions étaient comme différentes. Les enregistrements, donc il y avait plus la bass, guitare, puis toutes sortes de sampling vraiment tordant. C'était vraiment drôle de voir les gens arriver. Ils savaient pas trop c'était quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant de qu'est-ce que le FIMAP, donc ils voient ces installations-là dans un parc. C'est toujours drôle de voir la réaction des gens.
Ou sinon aussi, Victoriaville, on s'entend, ça reste quand même comme une ville moyenne où les gens sont pas nécessairement familiarisés avec des installations audio. Donc, j'imagine que, en ce sens-là, le commissariat d'Éric Dorion était bien réussi s'il y avait l'idée de rendre tout ça accessible.
Éric a passé sa fin de semaine à rencontrer les gens pour expliquer aussi qu'est-ce que c'est. Je trouve que c'est une très bonne initiative du FIMAV pour inviter les gens. Peut-être ça leur donne le goût d'aller voir qu'est-ce qui se passe en salle par la suite. Ça devrait être à l'année, ces genres d'installations-là.
Donc, je comprends que tu as apprécié ton expérience.
Ah, j'ai adoré. J'ai repassé 3-4 fois le circuit. Je me suis amusé comme un fou.
Bon. Mais dans ce contexte-là, j'imagine que tu n'as pas eu beaucoup de temps à toi, outre le FIMAV. Donc, cette semaine, tu nous as fait un petit best-of.
Ben oui, c'est ça. Je voulais vous faire passer un groupe que j'ai entendu au FIMAV, l'ensemble Super Musique, mais j'ai malheureusement pas d'extrait. Donc, on va retourner dans les vieux succès de l'aérospatiale. J'ai choisi 4 pièces pour les auditeurs. On va entendre tout d'abord la pièce Olibanum par Bipolar. Ensuite de ça, de Makunouchi Bento, c'est la pièce Ake Kujira. Puis on va ensuite se déplacer avec Bergeron qui nous présente sa pièce Intention dévorante. Puis enfin, la dernière, c'est une pièce de Elvis Herod. La pièce s'intitule Radio Running.
Eh bien, Simon Roy, je te remercie infiniment.
Ça fait plaisir.
Puis nous, on se reparle très, très bientôt.
Oui.
Alors voilà, on s'en va à pause audio. C'était un premier extrait des suggestions de Simon Roy, toujours à l'aérospatiale. Gilles Gagné, qui est maintenant accompagné, qui l'est depuis le début de l'émission, mais qui va plutôt céder la parole à Raymond Poirier.
Et je t'annonçais, Julie, au départ, on va parler de sexe et de conservateur. Tu disais, justement...
Ah, conservateur de musée!
Non, conservateur politique. En fait, c'est que le gouvernement Harper s'est insurgé contre une exposition pour adolescents sur le sexe qui avait pris affiche à Ottawa en cours de semaine dernière. Ça a été quand même passablement médiatisé. Une exposition qui a été créée par un musée fédéral à Montréal qui a remporté un prix d'excellence lorsqu'elle avait été présentée au Québec. Et là, oups, elle s'est retrouvée à Ottawa et ça a fait scandale. Essentiellement, c'est le ministre de la Culture, James Moore, qui était assez critique envers le choix de faire une exposition sur ce sujet-là et surtout le choix de le faire avec un financement de la part du gouvernement fédéral. Donc, il estimait que c'était pas approprié pour les jeunes enfants, que c'était pas non plus viable comme type d'exposition. Il a qualifié ça de gaspillage d'argent des contribuables. Alors, on reste un peu fidèle à la philosophie qu'on connaît de ce gouvernement-là. Parallèlement, le musée se l'a dit aussi de son côté l'âge d'entrée à l'exposition qui était de 12 ans et elle a passé à 16 ans. Il faut dire qu'on parle notamment là, d'actes sexuels là-dedans, de contacts et autres. Il y a des mots qui sont assez explicites aussi. Donc, ça peut justifier aussi de la part du musée le choix de destiner ça à un public d'adolescents un peu plus âgés. Bon.
Mais en même temps, je veux dire, faut quand même faire confiance au public. Là, moi, je suis pas certaine que j'amènerais mon enfant de 6 ans. J'en ai pas, mais j'amènerais pas mon enfant de 6 ans voir une exposition comme ça, là. En tout cas.
Et la grande question qui ressort de ça, outre l'éternel débat sur qu'est-ce qu'on peut dire et montrer à quel âge, c'est de savoir est-ce que le gouvernement a un droit de regard de quelque ordre que ce soit sur les expositions qui sont produites dans les musées qu'il finance.
Ouais, c'est ça.
Et ça, c'est la grande question aussi. Ça reste à débattre. Donc, pour l'instant, c'est un cas d'exception. Ça arrive assez rarement que ce type, appelons ça de l'ingérence ou de l'opinion claire qui est énoncée. Est-ce qu'il y aura d'autres cas de ce type? Est-ce qu'il y aura une certaine orientation dans les choix des musées? Ça sera à voir au fil des prochaines années. Et pour l'instant, ça soulève aussi, à mon sens, ce type de question.
Oui, vraiment. Donc, si vous avez une opinion, écrivez-nous ou allez sur notre site, l'aérospatiale.wordpress.com, laissez des commentaires, ça va nous faire plaisir de vous lire.
Et on reste dans le sexe, mais on s'en va à l'international, en fait. Un portrait qui a été très controversé du président sud-africain Jacob Zuma, qui a été vandalisé en galerie où il était exposé. Ça présentait en fait le président avec un pénis très apparent. Dans un portrait quand même assez glorieux. Le tableau s'appelle La Lance et c'est aussi un message politique quand même assez clair dans la mesure où M. Zuma a une sexualité quand même assez débridée et assez publique. Je pense qu'il a une vingtaine d'enfants, plusieurs femmes aussi là-dedans. Alors, disons que c'est assez critique envers ça et les gens étaient outrés de voir qu'une figure de l'ordre était montrée avec ce type de présentation-là. Donc, il y a des gens qui ont pris sur eux d'aller barbouiller de peinture noire, là, partie concernée du tableau.
La lance
elle-même. Alors, comme quoi, autant au Canada qu'en Afrique du Sud et qu'ailleurs, on le voit sporadiquement, les représentations à caractère sexuel choquent toujours d'une manière ou d'une autre. Trois petites vites pour terminer. Premièrement...
Excuse-moi, Raymond, tu parles. Ok, j'ai pensé croche.
Ok, oui, je viens de comprendre. Donc, on l'aurait dit quand même. Trois petites vites pour terminer. À Montréal, il y aura une nouvelle salle, un lieu unique de création et diffusion d'œuvres de propriété intellectuelle qui va ouvrir bientôt. Ça s'appelle le Centre Phi. Il y a eu une pré-ouverture la semaine dernière. Donc, essentiellement, l'idée, c'est d'avoir un lieu installatif pour de l'art d'installation sur la longue durée. Il y aura une première exposition le 1er juin, une installation artistique interactive qui va s'appeler Amantia de l'artiste Jean-François Méran, une installation basée sur la notion d'enveloppement sensoriel. Il y a l'artiste Janie Julien Farr qui a reçu une récompense, le prix Sylvie et Simon Blais pour la relève en art visuel 2012. On a reconnu le travail de Janie Julien Farr parce qu'on le perçoit comme s'inscrivant comme un anachronisme. L'artiste se réapproprie des techniques surannées comme le transfert Polaroid, le stenopé ou encore l'empreinte photochimique et s'intéresse à la matière photosensible en jouant de tous les accidents possibles propre à ses procédés. Et enfin, la dernière, on parle d'une équipe internationale de chercheurs qui a découvert dans le Périgord en France, la plus ancienne forme d'art mural. Elle date d'il y a 37 000 ans. C'est des motifs gravés qui seraient même antérieurs là, aux autres qui avaient été trouvés jusqu'alors, qui remontaient à 32 000 ans. Alors, on vient de gagner un 5 000 ans dans l'histoire de l'art, au bout du compte. Il s'agit ici, évidemment, là, d'images assez simples, des images de chevaux et des formes géométriques. Mais c'est une nouvelle preuve, selon les chercheurs, là, du haut degré de sophistication des premiers Homo sapiens.
Et voilà, Raymond Poirier, t'es pas trop essoufflé?
Pas trop essoufflé. Si les gens veulent plus de détails, ben c'est le blog, l'aérospatiale.wordpress.com.
Merci beaucoup. On t'écoute vendredi à La Vie en BD.
Oui, oui. On va parler notamment avec Philippe Girard, La Mauvaise Fille, qui vient d'être publiée chez Glénat.
Voilà, nous, on s'en va en pause audio. On écoute Bajé Kujira de Makunouchi Bento. J'ai de la misère à le dire. Puis au retour, ben on réentend l'entrevue qu'on avait faite avec François Mathieu. De notre côté, on se tourne vers le Musée national des Beaux-Arts pour discuter avec François Mathieu. Bonjour.
Allô, comment ça va?
Ça va bien, vous?
Oui, pas mal.
Vous présentez au Musée national des Beaux-Arts du Québec de l'air et du plomb. Est-ce que c'est possible de nous parler un peu de cette œuvre-là, de la présenter de manière générale?
Ben, disons que peut-être que je pourrais parler des machines en général, parce que pour moi, depuis que j'ai décidé de faire de la création, je pense que ce qui m'intéresse le plus dans la création, c'est le fait qu'on n'a pas de compte à rendre ni aux gens ni aux choses. C'est une grande, grande liberté. Et pour moi, le paradigme, le summum pour moi de ce qui est libre, c'est ce qui devrait être utile puis qui l'est pas, ce qui est fait pour rien. Alors je pense que c'est pour ça que mes sculptures tranquillement sont devenues des machines, parce que quand la machine sert à rien, on dirait qu'elle est encore plus fortement inutile, plus fortement libre. Alors pour moi, c'est un aspect important.
Est affranchi carrément de son utilité ou de son obligation d'avoir une utilité, finalement?
Ouais, c'est ça. Autant on pourrait dire pour la peinture, ben pourquoi tu peins, oui, mais pourquoi tu fais des machines qui marchent pas? On dirait que c'est aller encore plus loin dans ce champ-là pour moi qui est la liberté, là. Puis en même temps, c'est un langage. Moi, les machines m'intéressent. Les machines qui marchent m'intéressent. Je les regarde, les ponts, les architectures. Et puis donc, je vais chercher dans ce vocabulaire-là pour essayer de faire des choses qui sont toujours, toujours immobiles.
Oui, c'est ça, hein, parce que Nicole Gingras, quand elle parlait de votre travail, elle disait, bon, dans la perspective de la manif, de la machine, les formes du mouvement, elle disait, on peut évoquer le mouvement à travers l'immobilité, et c'est ce que vous faites avec de l'air et du plomb au musée.
Oui, c'est ça. Autant on pourrait dire, je sais pas moi, qu'il y a une machine, une sculpture machine, qu'on voit, on la regarde, on voit qu'elle est faite pour tourner en rond, puis elle tourne pas. Bon, ça pourrait être quelque chose. Mais dans mon cas, dans le cas de celle-ci que je présente là, c'est un genre d'engin volant. Alors là, je pense que la direction ou l'ambition est encore plus loin des projets mis en œuvre, puis entre les deux, ben justement, je pense que ça fait plus de place pour entrer avec son imaginaire, finalement, dans la pièce.
Tu sais, vous dites c'est un objet volant, mais quand on regarde les ailes, par exemple, de l'objet, on voit qu'elles sont comme trouées ou déchirées, elles sont comme pas complètes. Il y a même une plaque de bois là qui empêche carrément l'objet de voler. Donc, j'imagine qu'il y a cette idée de démontrer cette impossibilité-là aussi.
Oui, c'est un peu ça. Puis, en fait, je pense que plus la sculpture marche, plus l'engin volant vole pas, plus la sculpture marche.
OK. C'est particulier, ça.
Ben, regarde, dans le sens où, dans le fond, moi, ce que j'aime à dire, c'est que, en fait, si on l'amenait dehors, elle serait vite tournée en ridicule. Si on l'emmenait dehors pour essayer de la faire voler, pour essayer de la marcher, probablement qu'une bourrasse devant la ferait verser à terre, puis ça serait... Tu sais, ça serait comme un peu grotesque. Moi, j'aime mieux l'idée où ce que tout se passe à l'intérieur d'un atelier ou à l'intérieur d'une tête.
Ouais.
Alors pour moi, cette plaque-là, justement, contreplaqué, c'est qui vient quasiment l'écraser. Ben c'est un peu comme si je dis moi ma machine elle va voler, mais il faut que j'apporte le ciel avec moi. Parce
okay,
que
ouais.
le ciel que je fabrique est compatible avec la machine, puis tout ça marche ensemble. Puis c'est la même chose pour le sol. Bon, si on veut qu'elle s'élève un petit peu au-dessus du sol, ben il faut que je fournisse le terrain. instable. Il faut que je fournisse le ciel sur lequel je peux m'accrocher.
Ouais.
Parce que on entend des fois des ouvriers de la construction quand ils disent bon sur quel bord qu'on va partir, comment qu'on va partir ça. Des fois il y a une expression consacrée qu'on entend parfois qui parle du skyhook. Donc c'est un peu la place où qu'on va s'accrocher pour partir la tour ou pour partir la bâtisse. T'sais. Donc moi c'est un peu ça. Donc puis en même temps c'est un dialogue avec la rotonde du musée qui est endroit.
Oui, parce qu'il y a la forme circulaire là. Dans votre œuvre aussi.
Oui, puis qui est un endroit assez affecté quand même, hein, tu sais, qui est un lieu assez... parce que les salles ont été quand même un petit peu aseptisées, si on veut, ouais. Là, par rapport à la première version du Musée national. Mais alors que la rotonde, elle, est restée avec ses portes de chêne.
Oui, avec un style néoclassique assez pompeux.
Assez affecté,
oui,
c'est ça. Puis moi, ben là, je viens y installer une sculpture en plaie, là, pour justement être à mon aise, être chez moi dans ça, tu sais.
Oui, c'est ça, en même temps. Il y a cette idée de la richesse de la rotonde, mais parallèlement, vos matériaux, c'est pas des matériaux riches, là, c'est du tissu, du bois, il y a de la peau là-dedans, il y a un côté assez organique là, dans votre travail.
Ouais. Donc, si on veut, ben, c'est un peu comme si j'avais encadré l'œuvre, mais je pense que, justement, le cadre est dans un autre cadre, qui est la rotonde,
ouais.
Dans le fond, parce que même si au départ, c'était pas une commande de la commissaire, ça en est devenu une parce que j'ai décidé de lui proposer une pièce qui était inédite, donc qui est faite pour aller là.
C'est vraiment in situ,
en proportion,
là,
oui,
là.
C'est ça, exactement, oui.
Quand j'ai regardé votre œuvre, j'ai remarqué comme sur le sol finalement ou le sol que vous évoquez comme des, je sais pas si je peux dire des boulets comme en béton. Est-ce que c'est parce que ça ressemble un peu à des ballons parallèlement, mais on dirait que ça a comme pour fonction de faire tenir la chose à cet endroit-là. Tu sais, comme si pour moi je voyais ça comme ça, l'impossibilité de voler était aussi notamment liée au lest finalement,
ouais.
Qu'il y a sur le sol.
Ouais. Ben j'aime bien la lecture que t'en fais parce que c'est pas ça que je voulais.
OK, mais tant mieux.
Parce que ben, l'objet, il existe. T'sais. Une fois qu'on le met là, il existe, puis il est en dialogue avec les gens. Moi, dans le fond, j'envisageais un espèce de roulement à billes.
Ah oui, c'est ça.
Et,
oui, la personne qui m'accompagnait a mentionné un roulement à billes.
Ils ont parlé de roulement. Ouais. Mais en même temps, justement, c'est la littéralité des matériaux qu'on choisit parce que ces bearings-là sont en béton. Alors, bon, dans des chemins en bois, il y a comme quelque chose d'impossible, tu sais. Puis justement, plus c'est impossible en termes de fonctionnalité, plus ça devient une sculpture à proprement parler pour moi. Il y a comme un degré d'abstraction tout d'un coup qui vient nous rattraper, là, je trouve.
Puis qui crée, en fait, vous dites, le roulement à baie, mais ça crée quand même la disposition de ça, crée un mouvement circulaire dont on a envie de voir le prolongement aussi, ou dont on doit s'imaginer le prolongement, au même titre que votre objet volant. On s'imagine qu'il vole. Il y a comme un effort d'imagination pour le spectateur.
Ouais, c'est ça. Donc il y a pas d'enfer, tu sais, parce que comme je disais tantôt, on pourrait l'essayer dehors. À un moment donné, il va se mettre à vanter. Ça se passe jamais comme on veut. Donc on reste à l'intérieur. On imagine les choses et puis on peut se figurer peut-être qu'on va la dévisser un peu puis elle va elle va lever, tu sais, mais bon, ça va être un petit bon, tu sais, un petit bon pour lui, pour quoi, pour l'homme, puis un grand bon, en tout cas.
On peut s'imaginer.
C'est ça, on peut se conter des histoires, ouais.
Peut-être en terminant, François Mathieu, vous avez publié dernièrement un ouvrage chez J'ai vu qui est disponible en ce moment.
Oui, donc cet ouvrage-là est disponible à l'Espace 400, puis on peut le trouver aussi à la boutique du musée. Donc c'est un ouvrage que j'ai, c'est ça, c'est ma première tentative de façon dans un esprit un peu plus littéraire là, avec des photos évidemment.
Donc on est plus dans la collection livre d'artiste, si je comprends bien.
Tout à fait, c'est un livre d'artiste, c'est ça. Donc tout est de moi là-dedans là.
Ouais, de A à Z.
Ouais,
et puis
exact.
En ce moment, c'est double exposition pour vous, puisque vous exposez à la Maison de la Culture de Côte-des-Neiges à Montréal.
Oui, c'est ça, dans un collectif qui s'appelle Des choses suspendues. C'est en salle au même moment que la manif. Ça se termine la même journée. Là.
Ah oui, OK.
Les deux sont en même temps, ouais.
Donc voilà, c'est les gens de Montréal, ou si vous allez à Montréal, il fallait faire un tour, Jean-Pierre.
Juste rajouter que pour aller voir l'installation de François, il n'est pas nécessaire de payer le droit d'entrée du musée. Par contre, il faut avoir son laissez-passer de la manif. Mais c'est évidemment, si on veut accéder au reste des installations des salles du musée, ben là, il faut payer son droit d'entrée. Mais pour aller voir son installation, lui, c'est gratuit.
Oui, puis il n'y a même pas besoin de passer par l'accueil là, pour aller. On a juste à se rendre directement avec le macaron, si c'est possible. François Mathieu, merci beaucoup.
Un plaisir.
CKRL est maintenant en balado-diffusion. Écoutez ou réécoutez vos émissions favorites quand bon vous semble.
Un jour ici, un jour ailleurs.
Rendez-vous sur ckrl.qc.ca et cliquez sur la section Programmation. La balado-diffusion vous permet d'écouter directement sur notre site Internet ou de télécharger les contenus désirés. En auto, à pied, en vélo ou en canot, CKRL est dorénavant plus près de vous.
La balade de l'amour.
Hey, je viens de terminer l'un des 3 trajets du parcours artistique de la Manif d'Art 6. Wow! Avec la thématique axée sur les machines, c'est vraiment impressionnant ce qu'on y voit. En plus, demain, je vais assister à une conférence d'un artiste vraiment spectaculaire. La Biennale est du 3 mai au 3 juin et c'est à Québec. C'est un des plus grands événements en art actuel au Canada. Imagine, 80 artistes répartis dans 30 lieux. Tu devrais essayer le parcours et te renseigner sur les activités offertes. Le site manifdart.org contient tous les détails. Il y a même une application mobile. On y va ensemble.
C'est parti.
Ma boîte à cassettes.
La boîte à cassettes.
Ta boîte à cassettes.
Boîte à cassettes.
Boîte à cassettes.
Ma boîte à cassettes.
Ma boîte à cassettes.
C'est Robert Charlebois. J'aimerais bien entendre ta boîte à cassettes. Ça me changerait de la boîte à chansons.
Ma boîte à cassettes. Avec Jean-Philippe Deschênes, les mardis à 20h30.
Boîte à cassettes.
De Allman Brothers à Frank Zappa, c'est le rock de A à Z des années 60 à aujourd'hui. Concentré sur une seule fréquence. Tous les mardis dès 22h avec François Thériault et Martin Anger.
Vous désirez devenir membre du 89.1? C'est simple. Allez sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton « Devenir membre ». Pour seulement 25$, soutenez CKRL financièrement. Votre carte est valide un an, peu importe la date d'achat.
On met à l'ampli de Québec à ne pas manquer. La relation artiste-gérant avec Hubert Mention. Interprétation vocale jazz avec Annie Poulain. Atelier pratique d'enregistrement avec Jocelyn Bouchard. Stratégie de financement privé avec Émilie Chabot. Et un atelier de slam avec Quinka. Devenez membre de l'Ampli et rendez-vous sur amplidequebec.qc.ca 418-977-9764. L'Ampli de Québec remercie la Ville de Québec pour son soutien financier, le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale, de même que ses fiers partenaires, l'Hôtel Pur, Voir Québec et CKRL 89.1.
Vous écoutez CKRL.
Québec.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard.
26 ans de spectacle.
26 ans d'exposition.
26 ans à recycler.
26 ans de produits du Québec.
26 ans de bonne musique.
26 ans de party.
26 ans à s'impliquer dans le quartier.
26 ans d'entraide.
26 ans à changer le monde.
26 ans de Limoilou libre.
Souvent imité, mais le bal, c'est le bal. 1049 3e Avenue Limoilou. Lebaldulézard.com.
Il est 18h précises, on entame la deuxième demi-heure de l'aérospatiale. J'ai gagné toujours avec vous jusqu'à 18h30 où je céderai la place à Gilles Chaumel avec Folk d'Amérique. Avant de passer en deuxième partie d'émission, je vous invite à aller sur notre site internet l'aérospatiale.wordpress.com si vous voulez entendre les émissions en balado-diffusion. D'ailleurs, il y a les émissions intégrales de la manif en direct. Il y a également les rediffusions de l'émission comme celle d'aujourd'hui ou l'aérospatiale régulier, si vous voulez. Puis, si ça vous tente aussi, vous pouvez toujours venir nous voir sur Facebook. On est bien sympathique et on donne des nouvelles assez régulièrement. Sur ce, je vous laisse en entrevue au sujet de la vie en boîte. Alors, présentement, à la bande vidéo, il y a une installation qui s'intitule « Le laboratoire de la vie en boîte », une création de Jérôme Minière, Marie-Pierre Normand et Jean-François Dugas. Et justement, avec nous pour en parler, Jérôme et Marie-Pierre, bonjour.
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 Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Ouais. Question à la base. Qu'est-ce qui a donné l'idée de ce projet-là? Parce que je sais que ça vient d'un synopsis de Jérôme, mais qu'est-ce qui a mené au laboratoire de la vie en boîte?
Vas-y, Jérôme.
C'est une idée qui me traînait dans la tête depuis longtemps. J'ai fait un court-métrage d'étudiant en cinéma en 1994 ou 93 qui s'appelait Tracteur en plastique orange. C'était deux personnes qui étaient enfermées dans une boîte. Mais à l'époque, ça n'avait rien à voir avec un ordinateur ou une machine. J'ai eu un autre projet à la fin des années 90, un peu avorté, qui était quelqu'un qui vivait dans des câbles. Donc, il y avait quand même un début de tout ça. Et puis, vers la fin des années 2000, donc vers 2008, ces idées-là se sont un peu catapultées. J'ai écrit un espèce de petit document de 2 pages qui était comme une petite bible pour une petite série. Je savais pas quelle forme ça prendrait. Donc, la vie en boîte, c'est ça.
Puis, à partir de là, j'imagine, là, t'en as parlé à Marie-Pierre, à Jean-François, avec qui vous avez déjà collaboré ensemble. Vous avez décidé de monter ce projet-là et de le proposer en résidence à la bande vidéo, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, c'est pour ça aussi que c'est le laboratoire de la vie en boîte. C'est qu'on, c'était pas forcément une forme finale de ce projet-là, mais c'était une façon d'explorer un petit peu.
Ouais, c'est ça, c'est un processus d'une certaine façon où on s'en allait sans trop savoir où exactement, mais on avait le texte en tout cas, c'était ça la base, et puis avec beaucoup de plaisir évidemment. Les textes de Jérôme nous apportent toujours différentes dimensions, disons.
D'ailleurs, parlant de texte, c'est une fiction scientifique qui a été écrite par Jérôme. Est-ce que c'est possible peut-être juste de nous présenter les grandes lignes?
Donc, dans les grandes lignes, c'est un physicien à la retraite qui s'appelle Frank Hilbert, qui, génialement, dans son sous-sol, a réussi à fabriquer une interface qui permet de numériser le vivant. Donc, en d'autres termes, de transposer du vivant en 0 et en 1 et à le faire changer de dimension, donc l'entrée dans un ordinateur. Donc, ça a commencé par quelques cellules. Après, rapidement, il est arrivé à transférer une carotte, son chien, son lapin, voilà. Et donc, il s'est dit, il faut essayer avec l'humain. Mais c'est un peu comme la conquête spatiale. Il y a aussi un doute sur le retour. C'est-à-dire que dans le cas, par exemple, de la chienne Marla et du lapin Bobby, en fait, on n'a pas de preuve qu'ils soient revenus parmi nous. Donc, là, l'étape à laquelle on est rendu, c'est qu'un être humain choisi parmi la population, c'est en fait un monsieur qui s'appelle Raymond Jacques, qui est assez ordinaire, qui est chômeur, longue durée, et qui accepte de faire le cobaye. Et donc, on ne sait pas s'il pourra revenir, en fait. C'est ça, un des grands mystères, ouais.
Et dans le fond, ce qu'on voit dans l'installation, c'est premièrement l'artefact de la carotte nantaise qui a été envoyé, mais aussi toute la vidéo, en fait, où on voit le dit Raymond pendant 5 heures de temps, si je me trompe pas, là.
Oui, en fait, l'idée, c'est que comme pour l'instant, il est toujours dans la machine, nous, on expose la machine dans laquelle il vit, donc son habitat, c'est le Commodore 67, c'est ça.
Commodore 67, je pense que c'est inspiré du vieil ordinateur, mais je pense aussi que vous disiez de Habitat 67.
Oui, c'est un point de vue architectural, la boîte revient souvent, donc même la boîte d'Habitat 67 fait partie.
Oui, c'est ça, c'est vraiment la collision entre le Commodore 64 et l'Habitat 67.
Puis ce qui est intéressant quand même dans la vidéo, c'est de voir que on parle quand même de hauts faits technologiques, là, de transférer l'être humain dans l'univers virtuel, mais au final, on est vraiment dans des technologies désuètes. Puis dans la vidéo aussi, il y a peu de moyens, là, c'est très très simple.
Ben oui, ce qui est drôle, c'est que le paradoxe, c'est que ce personnage, Raymond Jacques, n'a pas accès à des prises de courant dans la machine. Tout est manuel. Alors, s'il écoute la radio, ben, il alimente une dynamo d'une radio manuelle. S'il se fait à manger, il a un réchaud à gaz. C'est même un peu dangereux comme ça, parce que c'est confiné, là, comme endroit. Donc, c'est tout le paradoxe. Et s'il trie des données numériques, donc des 0 et des 1, ben, c'est à la main aussi, des dossiers physiques, qui après deviennent des icônes sur l'écran, mais sont quand même au départ des dossiers physiques.
Ouais, c'est ça, c'est une sorte de bricolage finalement, de camping.
Puis l'idée, c'est ça, c'est d'imaginer ce que ce serait physiquement être dans un ordi, c'est-à-dire toutes ces tâches qui sont automatiques, ou là que ça devienne concret, que les dossiers soient pesants, etc.
Ah, en même temps, c'est ça, c'est comme de... En tout cas, moi, je vois beaucoup l'humain dans son environnement qui est complètement déconnecté, qui est toujours en avant de sa machine, mais qui, au final, ne vit plus en harmonie. Et là, vous le forcez à retourner aux origines d'une certaine manière.
Oui, c'est un peu le paradoxe. D'ailleurs, il y a une phrase, je sais plus, c'est un pastiche, en fait. Parce qu'on a des citations pour faire un peu sérieux. Et il y a un pastiche, en fait, c'était un document, justement, de Habitat 67. Je vais la lire, parce que c'est quand même drôle.
De l'Expo 67.
Ouais. Lors de l'Expo 76, je déparle.
76, oui.
Ouais. Non, mais au moment de l'Expo 67, il y a eu un pamphlet, et Marie avait ça dans ses archives. La phrase ressemble, on a juste rajouté la fin. Alors, je vais la lire. Depuis que l'homme a quitté la caverne, il a connu plusieurs formes d'abri. La hutte, la tente de peau de bête, la cabane de bois rond et la maison de pierre. Et nous, ce qu'on a rajouté juste, c'est l'ordinateur serait-il son ultime refuge? Donc, voilà. C'est ça, on revient à la boucle est bouclée.
Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a après l'ordinateur? Ça, on peut se questionner. Ouais. Dans l'exposition, parce que, au départ, moi, c'est le communiqué qui m'avait intéressé. On parlait d'une création que vous faisiez, multidisciplinaire, etc. Mais vous jouez avec les codes de l'art contemporain, parce que là, on parle d'une vidéo, finalement, qui est assez loufoque. Ouais. Mais faut quand même lire l'histoire pour bien comprendre.
Et ça, souvent dans les expositions d'art contemporain, il y a souvent des documents très rigides et
les concepts
sont là, tout ça, mais il faut absolument passer par le document pour comprendre l'œuvre. Donc nous, on a joué un petit peu sur ça, mais avec le côté fictif, donc une histoire, mais qui est vraiment une histoire dans laquelle il faut se laisser aller, puis voir plusieurs dimensions et peut-être même y croire. Finalement, c'est tout le but de notre travail.
Oui, c'est un peu un piège, en fait.
Ouais, c'est ça.
Oui, vous déjouez le spectateur parce qu'on s'attend à quelque chose, justement, d'hyper conceptuel. On dit, mon Dieu, ça a l'air complexe, cette chose-là. Comment je vais l'appréhender?
Voir ennuyeux, même. C'est comme, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Une démarche très, très intellectuelle.
Puis la feuille, en plus, c'est assez massive.
Ouais,
c'est pas juste format légal, là. C'est légal.
Oui, format légal.
C'est format légal, rempli, là, en tout petit caractère. Ça a l'air un petit peu... on n'a pas trop envie de la lire, quoi, au départ.
C'est ça, il y a un petit côté rébarbatif à la base.
Tout à fait,
c'est volontaire.
Tout à fait, oui.
Ouais, même au niveau du son aussi, quand on entre dans le lieu, le son est important. Donc, c'est une amplification de plusieurs sons de machines de soufflerie, tout ça. Donc, ça crée une espèce de poids ou de tension, puis on ne sait pas trop si on a envie de rester, finalement.
Ouais, c'est ça.
D'ailleurs, peut-être, je ne sais pas si c'est un peu pour combler ça, cette idée, parce que là, c'est un plan séquence de 5 heures qui est présenté à la bande vidéo, mais vous avez quand même décidé de diffuser des extraits de ça en accéléré sur Internet. Ça vient en complément?
Oui, absolument.
Oui, ben, je pense que c'est parce qu'il y a aussi deux façons de voir le temps dans ce projet-là. Il y a le temps présent, donc qui est une durée, cette espèce de perpétuelle journée que les gens peuvent aller voir donc directement à la bande vidéo. Et puis, en fait, il y a un format qui est plus celui qu'on connaît, nous, à la télé, à la radio, sur Internet, qui est les faits saillants, la télé-réalité, le truc monté très rapidement. Et donc, ça, c'est vraiment, vu que c'est quand même un événement historique, c'est le moment où il arrive dans la machine, le premier pas, le premier dodo, toutes des actions un peu emblématiques et une manière résumée rapidement, quoi.
Et qui, au final, sont quand même assez banales, là. Ça reste quand même du quotidien, là, dans sa plus simple
expression. Mais héroïque, tout de même.
Oui, c'est ça. Jérôme, c'est toi qui joues le oui. Personnage. Un plan séquence de 5 heures comme ça, ça doit être assez, assez difficile.
Ouais. Ben, disons, il y a une petite anecdote. Parfois, parce que je m'étais préparé, j'avais des listes aussi de choses que j'avais à faire et tout ça. Mais il y est arrivé des moments sur le 5 heures où j'avais des questions ou des doutes où je savais plus où aller. Et comme on pouvait pas vraiment communiquer, je me tournais face au mur. pour pouvoir leur dire un truc ou l'autre. Donc des fois, on me voit dans la vidéo, pendant 10 secondes, je suis face au mur, on sait pas trop pourquoi. En fait, c'est parce que j'étais en train de communiquer avec l'équipe, en fait, avec Marie et JF pour...
Donc, on se donne des idées. Puis
ouais, c'est ça,
on prend la petite marionnette, prends le petit gant, fais-toi une petite marionnette.
Tu peux te refaire un Ricard, si tu veux.
Ouais, c'est ça, on se donnait des petites idées comme ça, de jeu.
Mais ça devait être un défi quand même à organiser tout ça, là, parce que on a l'impression que c'est comme, bon, il y avait une grille de choses à faire, mais au final, c'est... improviser, là, est-ce que des fois c'était comme justement bon, ça pouvait être plus difficile ou?
Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on est parti donc du décor vide et tout. Contrairement à un tournage de cinéma standard, on a tourné vraiment dans l'ordre. Donc, on a tourné l'arrivée le premier jour, toutes les étapes jour 1 à chaque fois, parce qu'à chaque jour, comme un prisonnier, je rajoute un trait en fait au mur. Donc, on a vraiment été dans l'ordre. Et quand on notait les séquences, en fait, on les a pas notées par séquence, mais par jour. Et donc, l'évolution même physique du décor se faisait par accumulation à chaque tournage. Donc, quand on est arrivé après 2 jours de tournage, donc des chapitres qui sont actuellement maintenant sur Internet, plus rapides, avec les faits saillants, là, comme on dirait, on était prêt pour la journée de temps présent, puisque toute la table était mise. J'avais déjà fait un repas, j'avais déjà fait toutes sortes de choses, mais là, c'était de faire tout ça dans la même journée. Voilà.
Oui, puis après ça, de recommencer la journée suivante, parce qu'on s'entend que dans la vie, chaque journée n'est pas nécessairement si différente de l'autre que ça.
Exactement.
C'est
ça. Oui, c'est pour ça que, vu que ça dure 5 heures, quelqu'un qui, admettons, qui habiterait pas loin de la bande vidéo pourrait passer sur une semaine à plusieurs heures différentes, voire vraiment des moments assez différents.
J'imagine que c'est ce que vous invitez les gens à faire aussi,
si
parce
possible,
que quand même 5 heures...
Parce qu'il y a des surprises, c'est ça. Il y a des fois, des moments où il se passe rien. D'un coup, il y a une surprise vraiment étonnante. Au fond, il y a autant de... C'est pour ça que je dis qu'il y a un rapport autant qui est drôle aussi, c'est qu'il y a autant de faits étonnants que dans les petites capsules qui sont sur le web. C'est juste que c'est dispersé sur 5 heures. C'est dans une durée qui est complètement étendue, quoi.
Puis en même temps, c'est anti... Oui, c'est ça, anti-spectacle, parce que...
Oui.
5 heures où on sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc là-dessus aussi, vous déjouez un peu le spectateur parce qu'il sait pas, lui, quand il va y aller, comment ça va.
Oui, non, c'est sûr qu'il y a un côté anti-climax dans tout ça, là, assumé.
Ouais, disons que c'est un partage de solitude aussi, d'une certaine façon.
Peut-être une dernière question en terminant. Bon, hier soir, c'était le vernissage de l'exposition. Comment les gens ont réagi devant votre installation?
Ben, il y avait beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde. Déjà, c'était super, c'était chaleureux dans cet endroit difficile quand même. Et donc, nous, on se posait toujours la question, puis on trouvait ça difficile de pas savoir si les gens avaient lu le texte, parce que le texte est assez important dans la démarche. Donc, on encourageait les gens.
Je dois avouer que ça m'est arrivé plusieurs fois, nerveusement, de voir quelqu'un sur le point de sortir et de lui tendre vraiment la feuille, parce que j'avais vu qu'il avait pas été jusqu'à la feuille. C'est sûr qu'on n'a rien imposé, mais c'est très gros comme une maison. Il y a vraiment un gros tas de feuilles, puis on comprend qu'il faut la prendre, mais...
C'est une bonne lecture de chevet.
Ce que j'ai peut-être trouvé plus dur à vivre, c'est qu'étant habitué à faire des spectacles ou des choses comme ça, là, j'étais plus passif, et c'est vrai que j'avais le goût quasiment d'aller voir chaque personne, puis de lui raconter l'histoire ou de lui passer le texte, puis...
C'est vraiment dans une autre approche avec le spectateur. Eh bien, Marie-Pierre Normand, Jérôme Minière, merci beaucoup.
Merci.
Donc,
merci
à toi. Travail que vous présentez avec Jean-François Dugas et à la bande vidéo, c'est le laboratoire de la vie en boîte.
En passé, on voulait beaucoup remercier toute l'équipe de la bande vidéo qui a été vraiment super chouette.
De la Manif d'Or aussi et toute l'équipe.
Nicole Gingras aussi.
Ouais,
et voilà, donc on les remercie chaudement.
Cessez la nuit devant encore une attente pour les ménages. Je croyais me défendre. C'était la nuit devant encore une attente préliminaire. Je croyais me défendre. Je croyais me défendre.
On vient d'entendre un extrait de la pièce Intention dévorante par Bergeron. C'était une sélection qui fait partie du best-of de Simon Roy. Juste avant, c'était une rediffusion de l'entrevue avec les gens de La Vie en boîte qui est présentée à l'œil de poisson. On retourne en rediffusion d'entrevue. On écoute celle que j'avais réalisée avec Nicolas Dion du duo Mini Bloc. J'accueille Nicolas Dion du duo Mini Bloc. Bonjour.
Bonjour Julie.
Ça va bien?
Oui, merci.
Tu viens en solo aujourd'hui. Anne-Françoise devait quitter ce matin pour Montréal.
Oui.
Question à la base, vous avez fait des ateliers le 8, 9 et 10 mai. Des ateliers qui c'est, voyons, c'est quoi le nom? Non, atelier mécano. Donc vous faisiez ça avec 8 participants, avec Cantorio aussi qui était là. Comment ça s'est passé ces ateliers-là?
Alors, on a passé un beau 3 jours. Là, c'était vraiment une belle gang qui s'est inscrite aux ateliers. Puis ça s'appelait atelier mécano, mais nous ce qu'on a essayé de développer, c'est faire un atelier de création plus que du côté technique. Donc, on a fait des machines assez simples, là, avec du papier, du carton, ce qu'on a trouvé chez Emmaüs, etc. Puis, on a aussi joué tout le monde ensemble. Donc, il y a eu des sessions d'improvisation avec un focus sur le son, sur l'utilisation de différents micros, comment utiliser un micro-contact, ça peut changer ce qu'on entend dans un objet ou dans un matériau. Puis, tout le monde était bien enthousiaste. Là. Il y a eu des belles petites constructions puis des belles rencontres. Cantorio est venu nous montrer comment il fonctionne. Lui, c'est des utilisations assez créatives de des principes électriques simples. Là. Utiliser des aimants, utiliser des électro-aimants pour générer des petits mouvements puis des sons. Puis, ça a stimulé tout le monde. Là. Donc, c'est ça.
Puis, le tout a culminé avec un concert qui avait lieu jeudi, je crois. Hein,
c'est
le,
ça.
Le 10. Et là, si je me rappelle bien, les gens ont joué de leur création.
On a descendu les constructions de tout le monde en bas, dans l'entrée de l'espace 400e Bell. Puis, on a fait des petits trios, des petits duos. Puis, tout le monde était vraiment enthousiaste de présenter, finalement, ses créations. Puis aussi, un peu d'explorer là, en gang là, le son puis de voir la réponse là, du public.
Avez-vous créé des artistes sonores?
Je pense qu'il y avait plusieurs personnes qui sont inscrites, qui sont vraiment déjà un peu intéressées à explorer le son. Des gens qui sont en sculpture, des gens qui sont en installation avec des petites machines, tout ça. Puis de juste porter une attention plus particulière sur le son, là, c'était un intérêt. Il y avait une animateur aussi, donc elle était intéressée à faire ses trames sonores. Donc à enregistrer des sons, puis c'est comme si elle prenait des notes. Là, c'était le fun. Ça nous a fait une petite fleur.
Là. Ben oui, ça a dû être stimulant pour vous aussi là, d'être en contact comme ça avec les gens.
Oui, puis on voyait que tout le monde était fier. Là. Après la présentation, là, ça sonnait bien. On a fait des belles petites impros, pas trop longues. J'appelle ça bien ramassé, là, pas trop long, pas trop évasif. Puis tout le monde, tu vois que tout le monde était fier. Là, puis tout le monde était content d'échanger un peu. Là.
Ah, ben tant mieux, c'est une belle expérience. Mini Bloc, habituellement, vous êtes originaire du monde plus de la performance sonore, mais là, pour la manif, vous avez eu une demande de Nicole Gingras, vous avez commencé ça il y a quelques temps, mais vous avez eu une demande de Nicole Gingras de créer une installation carrément.
C'est ça, donc, c'est ça, et on est issu de la performance audio, puis... Nicole elle a vu notre installation sonore qu'on a fait l'année passée, puis elle nous a invité à réfléchir pour cette année, à en faire une, si tu veux, la suite. Puis on y a réfléchi, puis on s'est mis à travailler en atelier. Donc on a préparé ça spécialement pour la manif, ça s'appelle le courant d'air. Puis c'est notre troisième en fait, mais c'est assez récent. On a commencé à faire notre première installation en 2009, la deuxième l'année passée, puis là celle-ci c'est notre troisième. Puis on occupe tout l'espace de la galerie, puis on est fiers.
Puis j'imagine vous connaissiez la thématique machine, les formes du mouvement. Comment vous, est-ce que ça s'est intégré comme dans votre réflexion?
Ben c'est assez naturel, c'est-à-dire que je pense que Nicole, assez où elle va, puis assez un petit peu, elle a des idées en arrière de la tête quand elle parle aux gens. Nous, on travaillait déjà avec des principes mécaniques l'année passée, donc c'était c'était des lecteurs de cassettes qu'on a modifiés. Puis donc, il y avait du mouvement mécanique, puis il y avait du travail sur le son, mais des petits mouvements. Puis, donc, quand elle nous a demandé si on était intéressé à faire la suite dans le cadre de la Biennale, c'était la suite de notre travail. Donc, on a encore travaillé sur le mouvement, mais c'était moins mécanique. Là, on travaille avec le vent maintenant.
Oui, parce que là, votre installation, en fait, c'est une multitude de petits ventilateurs dont vous projetez le vent sur des constructions ou des assemblages que vous avez faits, là.
C'est ça. Donc, c'est assez simple comme procédé. Puis les résultats sonores, nous, c'est ça qu'on cherchait à créer. Il a fallu qu'on construise un petit peu, qu'on occupe plus l'espace. Des constructions en papier, des constructions avec des petites pièces, des petites languettes, ça revole un petit peu. Puis, tout le son est produit acoustiquement. Puis, la seule machine, finalement, électrique, c'est le ventilateur domestique.
Parce que du vent, ça se génère pas tout seul non plus dans la direction qu'on souhaite.
Non. Puis, il y a bien de l'aléatoire là-dedans. Puis, on a travaillé en atelier beaucoup pour essayer de causer des accidents. Fait que c'est comme l'aléatoire, mais un petit peu encouragé. Pas calculé, mais encouragé.
Il semble y avoir l'idée d'expérience derrière votre travail. Comme au-delà de l'idée, c'est d'expérimenter les matériaux, de faire des tests. C'est récurrent, j'imagine?
Bien, c'est ça. On travaille en atelier. Souvent, on part juste d'une idée de base. Par le passé, on avait travaillé avec la gravité dans notre première installation qui avait été présentée en 2009. C'était des billes qui roulent le long d'un chemin. Puis là, ensuite, si tu veux, la rotation mécanique. Puis là, cette année, c'est ça, c'est d'expérimenter juste qu'est-ce qu'on est capable de faire avec du mouvement d'air qui génère un mouvement de petits matériaux suffisants pour donner un son. Mais souvent, c'est des sons très doux, mais nous, ça nous intéresse, là, le petit côté recherche acoustique, mais en même temps un peu cabotin, un peu rigolo.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a le côté cabotin, rigolo. Je trouve qu'il y a un côté enfantin aussi dans l'aspect un peu bricolage, dans le choix. Il y a beaucoup de couleurs, l'utilisation du carton construction notamment.
C'est ça. Donc, on a utilisé les boîtes de carton, le papier craft, le papier construction. Tous les matériaux de bricolage de troisième année sont là, la papeterie, etc. Puis, ça tient avec des trombones, ça tient avec des épingles à linge.
Des clips à papier.
Puis, mettons que ça fait partie de l'esthétique, si tu veux, puis aussi de la façon qu'on fonctionne. C'était pratique à démonter. Il y avait le moins d'affaires possible qui étaient collées avec la grosse colle. Fait qu'on a tout démonté, on a tout déplié, on a tout remonté. Donc, c'est un petit peu, c'est du bricolage jusqu'à la dernière minute.
Oui, c'est ça. Puis, vous semblez vraiment vous amuser à le faire. Là, moi, quand je regardais l'installation, je vous connaissais pas, je vous avais pas vu encore, mais je vous imaginais dans votre atelier à gosser vos petites patentes, puis à rire un peu, puis à attendre, là.
Oui, le bac de recyclage, il est pas mal gros dans l'atelier. On le remplit vite, les retailles de papier, les retailles de carton. Le bac de recyclage, là, il est haut comme moi, finalement. Puis la poubelle est toute petite, mais bon, c'est ça.
Puis il y a quelque chose aussi, quand même, parce que, tu sais, vous choisissez le vent, vous choisissez le papier. Il y a quelque chose, quand même, qui est très subtil, hein, qui demande une attention soutenue du spectateur. On peut pas y aller, puis juste regarder de loin. Faut s'approcher, faut se pencher, faut regarder les mécanismes aussi.
C'est ça. Tu rentres dans la galerie, puis tu as une première impression, parce qu'il y a des objets en mouvement un peu plus visibles. Puis tu entends certains sons, mais il y en a beaucoup que tu peux seulement entendre si tu t'approches très près, si tu te penches un petit peu de façon inconfortable. Puis c'est ça, c'est un peu du jeu avec l'auditoire. Puis on voulait pas aussi tout donner de façon trop facile ou trop évidente, là. Fait que il y a des points d'écoute qui sont clairs. Il y a des cônes en carton qui ressemblent, si tu veux, aux cônes du gramophone. Donc, c'est des points d'écoute clairs. Puis, il y en a d'autres qui sont libres, si tu veux. Tu te promènes autour de la structure, puis tu vas trouver des sons que tu n'as pas entendus si tu es juste à 2 mètres de distance.
Puis, d'ailleurs, tu dis des sons qu'on ne peut pas entendre à 2 mètres. Vous avez organisé aussi votre installation de manière à ce qu'il y ait comme des groupes d'œuvres qui jouent en même temps.
C'est ça. Donc, c'est plusieurs constructions qui sont dans l'espace. C'est un grand espace. Puis, si les constructions jouaient toutes en même temps, ça serait un peu trop chaotique. Donc, on en a réduit. Il y en a juste certaines qui sont allumées une après l'autre. C'est assez simple. C'est sur des minuteries de lumière, là, des minuteries de maison. Puis ça permet d'aller écouter celles qui sont un peu plus douces, puis de passer un peu de temps avec eux, là, quelques minutes. Puis là, ensuite, il y en a d'autres qui s'allument. Puis c'est ça. Donc, c'est d'encourager un petit chemin. Ils sont répartis un peu partout dans l'espace. Donc, ça se peut que tu en aies manqué quelques-unes. Puis là, quelques minutes plus tard, elles vont s'éteindre, elles vont se rallumer. Donc, c'est un jeu, ça aussi.
À l'œil de poisson, vous pouvez aussi vous présenter courant d'air, mais il y a vidéo test cassette 2 que vous présentez aussi dans l'entrée vidéo. Est-ce que c'est possible de nous parler un peu de cette vidéo-là, de ce qui est à l'origine peut-être de la vidéo?
C'est ça. Donc, comme je te disais, courant d'air, c'est notre troisième installation. Puis notre deuxième, ça s'appelait Super Ferro, qui est un qualificatif qu'on donnait aux cassettes audio. Donc, le vidéo, il est issu de notre travail en atelier pour l'installation qu'on a fait l'année passée, qui était basée sur des manipulations de cassettes. Puis, le vidéo, c'est des petits plans très courts de des petites constructions de cassettes dans lesquelles on a enlevé la bande. Puis, on l'a remplacé par des petites actions mécaniques, des chaînes, des petits clous. Puis, c'est comme une petite série de petites vignettes vues de très, très proches qu'on a faites en atelier. Voilà.
Puis en même temps, on revoit, c'est ça, le côté très coloré, le côté expérimentation à travers cette vidéo-là.
Oui, ben c'est ça. Il y a des petits matériaux qui reviennent, là, le papier, la colle, des bouchons de jus d'orange, etc.
Est-ce que c'est une manière pour vous aussi de fixer comme des expérimentations que vous faisiez pour votre autre installation ou?
Ben c'est-à-dire que le vidéo, il s'appelle vidéo test cassette 2 parce que c'était pendant le processus de travail. Puis ça nous permet aussi de documenter puis de jeter un coup d'œil sur qu'est-ce que ça pourrait devenir, puis éventuellement ça devient autre chose là plus tard là.
Oui, parce que vous retravaillez aussi à partir de ça, puis ça vous amène d'autres réflexions.
C'est ça. Merci.
Merci. Tout simplement.
Tu sors les mots de ma tête.
Bon, voilà, je parle à ta place, Nicolas Dion. C'est vraiment super. Hein? Quelle intervieweuse qui se prend pour son invité quand même. Ben Nicolas Dion du duo Mini-Bloc, merci beaucoup.
Oui, merci, ça fait plaisir. C'est dommage que ma collègue Anne-Françoise n'a pas pu être là, mais elle aurait aimé ça. On a travaillé beaucoup pendant 2 semaines, puis il faut retourner travailler dans la grande ville.
Oui, parce que là, les projets s'empilent, j'imagine.
Un petit peu, oui. Donc, c'est ça, on tiendra au courant éventuellement.
Ben oui, puis en attendant de voir ça, ben on se précipite à l'œil de poisson pour voir courant d'air et vidéo test cassette 2. Donc, Nicolas Dion, merci beaucoup. C'est ainsi qu'on termine l'aérospatiale cette semaine. N'oubliez pas la manif en direct samedi à compter de 11h à partir de l'espace 400e. Et moi, ben, je vous laisse entre très bonnes mains avec Jules Chaumet, les Folks d'Amérique. Bonne soirée!